Les racontars de Citrouille Amère. 10 minutes pour une œuvre d'art.
Blé Il Pé Radio.
Bonjour. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle saison des racontars. Et pour cette première émission, je vous propose de nous transporter par un grand bond dans le temps et dans l'espace pour nous rendre dans l'Égypte antique. Nous allons porter notre attention sur le portrait d'une reine iconique de l'Antiquité. Elle est aussi célèbre que la Joconde. Il s'agit d'un portrait polychrome en calcaire. L'archéologue, lorsqu'il la découvre, note dans son journal de fouilles « C'est une œuvre si extraordinaire que l'on ne saurait la décrire. Il faut la voir. » Tentons tout de même de la décrire. C'est le portrait d'une femme d'une trentaine d'années, représentée en ronde-bosse. Une statue en ronde-bosse est une statue autour de laquelle il est possible de tourner. Son visage est posé sur un cou gracieux, interminable. Sur la tête, elle porte la couronne bleue des reines. Cette coiffure est décorée à mi-hauteur d'un ruban de pierre semi-précieuse taillé en rectangle et carré, serti d'or. Sur le devant de la couronne, un uréus, le cobra royal symbole de la royauté, se détachait. Malheureusement, aujourd'hui celui-ci a disparu. Délicatement arrondi, souligne les arcades sourcilières. Les yeux en amande, bordés de kohl, sont surmontés de lourdes paupières. Le nez, droit, mince, aux ailes gracieuses, est encadré par des pommettes légèrement saillantes. Deux rides d'expression soulignent de part et d'autre une bouche délicatement ourlée. Le menton, volontaire, est légèrement proéminent. L'arc de la mâchoire inférieure est bien marqué. Les joues sont légèrement creuses. Les tendons du cou, bien marqués, accentuent encore plus le côté gracile de celui-ci. Autour du cou, elle porte un collier très précieux. C'est le collier de la récompense, le collier de la plus haute distinction de la royauté. Il se compose de lapis lazuli, de turquoise et de cornaline. On mesure la préciosité du bijou lorsque l'on sait que ces trois pierres semi-précieuses ne se trouvent pas en Égypte. Les deux premières proviennent d'Afghanistan et la dernière du bassin de l'Indus. La beauté fascinante de ce portrait est toutefois gâchée par l'absence de l'œil gauche. Les oreilles, elles aussi, sont partiellement endommagées. Malgré ce défaut, le portrait dégage une élégance intemporelle et son port altier en impose. Aucun doute, nous sommes bien en présence du portrait d'une reine. Portrait de la reine Néfertiti, calcaire polychrome, haute de 24,5 cm, œuvre de Thoutmosis, vers 1345 avant Jésus-Christ, conservé au Neues Museum Berlin. Le 12 décembre 1912, lorsque l'archéologue allemand Ludwig Borchardt découvre ce portrait sur le site de Tell Amarna, en Égypte, dans l'atelier du sculpteur Thoutmosis, la beauté de l'objet et l'excellent état de conservation le fascinent. Dès lors, il va tout faire pour dissimuler la découverte au service des antiquités égyptiennes, dirigée alors par un Français. Ce conservateur des antiquités égyptiennes est un spécialiste de l'épigraphie. Aussi, Borchardt met en avant une stèle très belle, mais pas exceptionnelle. Cette dernière va capter toute l'attention du conservateur. Il n'aura Dieu que pour elle. Par ce stratagème, le portrait de Néfertiti sera attribué à l'Allemagne. À l'époque, l'usage voulait que les objets trouvés en fouille soient partagés entre le pays finançant la fouille et le département des antiquités égyptiennes du Caire. Mais elle ne sera dévoilée au public qu'en 1920. Si le nom de Néfertiti est universellement connu, bien peu de personnes savent qui elle était vraiment. Son nom en égyptien signifie « Belle est la beauté d'Amon ». Elle est la grande épouse d'Amenhotep IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton, dixième pharaon de la 18e dynastie. Il règne de 1371 à 1365 avant Jésus-Christ. Ce pharaon s'oppose aux grands prêtres de l'Égypte. Il crée un nouveau culte solaire dédié à Aton et installe sa capitale à Tel Amarna. Ce pharaon se reconnaît facilement par sa silhouette très longiligne, son visage émacié, au menton en galoche et le ventre légèrement rebondi. À sa mort, les grands prêtres le déclarent hérétique et le vouent, de ce fait, à une damnation mémoriée. Dans l'Égypte ancienne, cela condamnait à ne jamais accéder à la vie après la mort. Il n'existe pas dans l'Égypte d'alors de punition plus épouvantable. Et Tel Amarna, sa capitale est rasée. Des années, des siècles, des millénaires d'ère passent avant que le XXe siècle naissant la redécouvre. Néfertiti et Akhenaton auront de nombreux enfants, beaucoup de petites princesses. Avec une autre épouse, Akhenaton aura un garçon. Ce dernier, Toutankhamon, deviendra le plus célèbre des pharaons malgré un règne très bref. Cette célébrité est probablement liée à la richesse de sa tombe découverte inviolée en 1922 par Howard Carter. Néfertiti et Akhenaton semblent très amoureux. Ils vouent une attention et une tendresse toutes particulières à leurs enfants. En tout cas, c'est ce que suggère un relief du règne d'Akhenaton. Ce relief, réalisé dans la technique du relief dans le creux, nous montre Akhenaton et Néfertiti assis face à face. Le pharaon est à droite. Il est vêtu d'un pagne remontant jusqu'au haut des reins, dévoilant sa petite bedaine. Il est coiffé d'une couronne avec sur le devant un uréus, le cobra royal. Il embrasse une jeune enfant qu'il porte dans ses bras. Néfertiti, assise en face d'Akhenaton, vêtue d'une robe fourreau et coiffée de la couronne bleue des reines, sur les genoux, elle tient une petite princesse. Cette dernière désigne du doigt son père, tout en se retournant pour regarder le visage de sa mère. Une autre petite princesse, accrochée à l'épaule de sa mère, lui caresse tendrement le visage. Entre les deux époux royaux, le disque solaire, Aton, est représenté. Les rayons du soleil sont matérialisés avec à leurs extrémités la représentation de petites mains. Certaines tiennent la croix en C, Ankh, la clé de la vie. Pour finir, penchons-nous sur l'absence de l'œil gauche. Ce manque s'explique probablement par le fait que ce portrait serait un modèle pour l'édification de statues de Néfertiti. La cavité vide indiquerait la manière de réaliser les yeux. Il existe un autre portrait de Néfertiti, dit « Portrait inachevé de Néfertiti de Berlin ». Dans ce portrait en granit, on reconnaît sans contestation le visage de la reine. Il n'est pas polychrome. Il comporte uniquement quelques traits noirs, soulignant les points saillants du visage, comme la ligne de la coiffure, les sourcils et le pourtour des yeux. Ce portrait, par sa sobre élégance, nous séduit et nous enchante. Ce premier racontar de la saison s'achève sur ce portrait féminin à la beauté intemporelle et universellement reconnue. Merci à Marie et à Quentin. Les retrouver a été un grand plaisir. Je vous retrouve le mois prochain. Alors à très vite.
BLP Radio. BLP.